Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur CNews cet après-midi. Une nouvelle semaine de 90 minutes info à suivre. Juste après, un rappel des titres avec Somaïa Labidi. Bonjour Somaïa.
Éric Zemmour va porter plainte contre l'État et la CGT après l'attaque d'une séance de dédicace à Brest. Une plainte sera déposée aujourd'hui contre la CGT et la vingtaine d'associations ayant appelé à manifester contre sa venue. Une autre sera déposée contre l'État au travers du préfet du Finistère. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue samedi après-midi en marge de la manifestation. Chat écrasé par un TGV, la SNCF devant le tribunal. Georgia et Melaina, les propriétaires, espèrent que la justice réparera leur peine. Il y a 6 mois, la mère et la fille ont perdu leur chat Neko. Après s'être échappé de sa cage, le petit félin a été fauché par un TGV malgré les nombreuses tentatives de sa propriétaire d'empêcher le départ du train. Pour l'heure, l'audience a été suspendue pour trancher la question de la compétence du tribunal. Et puis, violente bataille en Cisjordanie, 4 Palestiniens tués et une 60aine de blessés lors d'un raid militaire israélien à Jenin. D'intenses affrontements ont eu lieu dans cette ville du nord de la Cisjordanie occupée, où des missiles ont été tirés par un hélicoptère israélien. 7 membres des forces de sécurité israéliennes ont été blessés et hospitalisés dans cette opération, selon l'armée.
Et au sommaire aujourd'hui, il sera question du désarroi de plusieurs dizaines de familles en Charente-Maritime qui ne pourront plus rentrer chez elles après le séisme de vendredi. Elles sont en attente d'une aide de l'État désormais.
Ils ont déclaré que la maison n'était plus habitable et qu'on n'a plus le droit de rentrer dedans. Nous, on n'a rien, c'est le principal, mais on a tout perdu, quoi. En l'espace de même pas 10 secondes, on a tout perdu.
Parlons politique avec Jean-Luc Mélenchon qui estime que l'abaya n'est pas un problème à l'école. Vous entendrez d'ailleurs la réponse de Julien Drey sur notre antenne. D'ores et déjà un extrait.
Vous vous rendez compte pour le professeur l'abandon que ça représente ? L'abandon, et j'emploie cette expression délibérément, pour quelqu'un qui a été ministre de la République, ministre de la formation professionnelle.
Mmh. Enfin, nous parlerons de cet homme jugé à Soissons pour l'agression d'un père et d'une mère de famille de 6 enfants à Villers-Cotterêts sur fond de trafic de drogue. On entendra le témoignage terrifiant de cette femme.
Ils m'ont projeté par terre, donc j'ai eu le bras cassé. Et après, ils ont traîné mon mari dans les escaliers, couché par terre. On continuait à le taper. Moi, au passage, ils m'ont écrasé les jambes parce que ils sont passés sur moi.
Et la team, comme diraient certains du jour, l'équipe du jour pour m'accompagner, composée de Gabriel Cluzel. Bonjour, merci bonjour, d'être là. Je rappelle que vous dirigez Boulevard Voltaire. Gauthier Lebray nous a rejoint.
Bonjour, Nelly.
Également, Gauthier, je ne vais pas me joindre au concert de félicitations, mais je les réitère quand même ici. Et bien sûr, Jean-Claude Dacier pour nous accompagner tout au long de l'après-midi. On a choisi de parler, évidemment, pour débuter cette édition, de la désolation, il faut le dire ainsi, pour ces dizaines de riverains à La Laigne, c'est en Charente-Maritime. Ils ont subi plusieurs secousses et après le séisme de vendredi, la terre a encore tremblé samedi avec une magnitude toujours de l'ordre de 5 sur l'échelle de Richter. Alors beaucoup de ces habitants, entre-temps, ont dû quitter leur logement devenu complètement inhabitable. Augustin Donadieu a recueilli leur témoignage.
Les pompiers ont été mobilisés tout le week-end. Dans ce petit village de Charente-Maritime, où se trouvait l'épicentre du séisme, l'heure est à l'évaluation des dégâts par les pompiers avant l'expertise d'ingénieurs.
Ça signifie qu'aujourd'hui, en l'état, par rapport à notre niveau d'expertise, on ne peut pas autoriser le maintien dans l'habitation. Il y a un risque d'effondrement.
Au total, près d'un tiers des habitants ont dû quitter leur logement, touché depuis par une dizaine de répliques. Le bilan provisoire fait état de 70 maisons inhabitables.
Les experts des pompiers qui sont venus ce matin, ils nous ont déclaré que la maison n'était plus habitable et qu'on n'a plus le droit de rentrer dedans. Nous, on n'a rien, c'est le principal, mais on a tout perdu, quoi. En l'espace de même pas 10 secondes, on a tout perdu.
Aucun blessé n'a été déploré, mais plus que les plaies physiques, les pompiers ont dû aider les habitants atteints psychologiquement.
Donc la cellule d'urgence médico-psychologique a été activée samedi et elle poursuivra son travail jusqu'à aujourd'hui, lundi, donc pendant 3 jours consécutifs. Justement pour pouvoir que les gens puissent exprimer leurs ressentis et avoir un point de contact avec des psychologues qui pourront les accompagner.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'enclenchement d'une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophe naturelle.
Jean-Claude Dacier, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, bon, évidemment c'est la moindre des choses. On attend d'ailleurs de voir si l'État sera réellement au rendez-vous, mais quand même, Plus largement, ça repose aussi la question de l'urbanisme dans certaines régions, parce que ce n'est pas la première commune qui est touchée, ce n'est pas la dernière. Il y aura peut-être à un moment le besoin de revoir aussi les plans d'urbanisme, la manière dont on construit les maisons. C'est quelque chose qu'il faudra se demander à l'avenir, parce qu'on ne va pas pouvoir toujours indemniser.
Certes, sûrement, mais construire en antisismique, c'est quelque chose qui est compliqué, qui coûte de l'argent. Dans un pays comme le nôtre, qui est... j'ai regardé un peu avant de venir, réputé stable. Il y a, c'est vrai, des zones qui sont plus sensibles que d'autres dans l'Est, dans le Midi, évidemment, dans la région Pyrénées. Mais les Deux-Sèvres, a priori, ça apparaissait comme quelque chose de relativement stable. Moi, je me mets à la place de... Non, bon, d'abord, évidemment, comme vous le disiez, j'espère que le gouvernement va faire vite pour décréter mercredi, j'imagine, la catastrophe naturelle et permettre aux assureurs d'aller le plus vite possible. Sont-ils bien assurés? Quand ils ont, disent-ils, tout perdu, sont-ils bien assurés? Vont-ils être capables d'être remboursés? Moi, je me mets une seconde à leur place, si c'est possible, et c'est très difficile. C'est un petit village, les maisons sont certes pas en très bon état, on sent c'est du moellon, ça a été construit sans doute il y a longtemps, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir, demain, la semaine prochaine, dans un mois? Ils ont, comme ils disent, tout perdu.
Mais alors précisément, l'état de catastrophe naturelle, ce n'est pas le moyen de pallier peut-être le
problème des assurances ? J'espère qu'il va être pris vite, encore une fois, mercredi au plus tard, que les assurances vont faire attention et aller vite. Mais encore une fois, je ne peux pas aller au-delà parce que je ne connais pas le détail des contrats. Mais je me mets une seconde à leur place, rendez compte. Ils étaient dans un petit village tranquille où rien ne paraissait de voir leur arrivée. Du jour au lendemain, en quelques secondes, le séisme que personne ne pouvait pronostiquer ou attendre ou redouter est arrivé. Ils ont tout perdu.
Oui. En tout cas,
moi, ça me serre le cœur quelque part, et j'espère que ça va être la même chose avec les assurances.
En tout cas, c'est la promesse de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, qui est dans la région aujourd'hui, après la Charente-Maritime, il est désormais dans les Deux-Sèvres, en disant que l'État serait au rendez-vous. Sur place, il y a également notre équipe composée d'Antoine Estève et Jérôme Rampenoux.
Oui, le ministre a rencontré les habitants de ce village fortement touché par ce séisme vendredi, 5.5 sur l'échelle de Richter et une cinquantaine de maisons partiellement détruites qui ne sont plus du tout habitables. Christophe Béchu a voulu annoncer tout d'abord la solidarité nationale avec un dispositif de logement d'urgence qui existe en France. Il a affirmé que chaque personne qui le nécessite sera relogée autant de temps qu'il le faudra. Deuxième annonce cette fois-ci sur la sécurité avec cette dame qui a interpellé le ministre en lui disant « Mais que vont devenir toutes ces maisons abandonnées ?» Jour et nuit, eh bien, il a affirmé que la gendarmerie allait surveiller en permanence à partir de maintenant toutes les maisons et tous les villages qui ont été touchés par ce séisme pour éviter évidemment tout risque de cambriolage ou de pillage.
Le problème quand même, Gabriel Cluzel, c'est que quand on doit quitter, délaisser sa maison comme ça précipitamment, déjà on s'installe où? Sans compter quand même le traumatisme psychologique pour ceux qui seraient tentés de rester, parce que on ne peut pas bien dormir dans ces conditions. On ne sait jamais ce qui va se produire la nuit d'après. Ça doit être quand même assez déstabilisant sur le plan psychologique.
Je pense que c'est déjà déstabilisant parce que, vraiment, Jean-Claude l'a rappelé, c'est une région dans laquelle on ne s'attend pas à ce genre de choses. Alors, c'est toujours déstabilisant même dans les régions dans lesquelles on s'y attend. Mais là, de fait, ce n'est pas une région qui était préparée à cela. Donc, c'est très angoissant. Par ailleurs, dans l'évacuation des personnes, il y a la notion de principe de précaution. Donc parfois on évacue des gens qui n'ont pas la sensation que leur maison pourrait être en danger. C'est vrai que quand on est dans une maison à moitié en ruine, on se dit bon là je suis obligé de partir, mais il y a des maisons où il faut des experts pour se rendre compte que potentiellement elles peuvent être dangereuses. Donc c'est difficile de convaincre les gens. C'est un peu comme dans les incendies, hein, quand il y a des personnes âgées qui veulent rester parce qu'elles ont tout sur place, leurs albums photos, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je trouve que c'est excessivement précieux. Et de fait, elles sont très difficiles à convaincre. Et puis le risque a été abordé dans votre reportage, c'est évidemment quand on quitte sa maison, et c'était le cas pour les incendies cet été, c'est le pillage. Il y a des gens en embuscade qui, eux, ne craignent pas de rentrer et en profitent pour tout déménager.
Alors, Gauthier, on parlait de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, qui est sur place. C'est vrai qu'il prend son temps. Il est au rendez-vous, en tout cas, il est au contact. Maintenant, il faudra que ce soit suivi des faits. Est-ce qu'il y a déjà quelques promesses? Est-ce que les annonces sur la table?
Vous dites qu'il est au rendez-vous. J'ai envie de vous répondre cette fois-ci. pendant les incendies qui avaient ravagé la Gironde l'été dernier, il était aux abonnés absents et ça avait été souligné à l'époque. Alors en plus, si je fais un mot de politique, de petite politique, de petite poloche, comme dirait Éric Dupond-Moretti, il y a un remaniement qui se prépare. Donc Christophe Béchu, il a intérêt à être à l'avant.
Ceci explique sans doute.
Voilà, et d'être au point sur ces dossiers, ce qu'il n'a pas été encore une fois lors des incendies qui ont ravagé les Landes l'été dernier. Il vient de déclarer que l'État sera là. L'État sera là, donc il vient de le déclarer en marge de son déplacement. Sans doute, évidemment, ça ouvre la voie à une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle en Conseil des ministres, probablement mercredi.
Le président a fait des chèques tout au long de cette année. C'est peut-être même un peu au-delà. Là, je pense qu'un chèque serait utile, efficace, et surtout, il permettrait à tous ces malheureux de reprendre un petit peu foi en l'avenir. On ne se rend pas compte à quel point c'est difficile d'être propriétaire de sa maison, par ceux qui ont hérité encore. C'est dur d'être propriétaire d'une maison. Et tout disparaît en 15 secondes. Encore une fois, mettons-nous à leur place.
Alors, vous disiez, c'est vrai, on n'est pas habitué en France, a priori, on n'est pas dans une zone réputée particulièrement dangereuse sur le plan sismique. Mais quoique, c'est pas la première alerte quand même à l'échelle de l'histoire, même contemporaine. On va le vérifier avec vous, Michel Chevalet. Michel Chevalet, vous connaissez parfaitement ces questions. Alors, c'est une zone sismique, l'ouest de la France, ou pas du tout?
Ah ben ça surprend, hein. Quand on parle de zone sismique en France, on se dit là où c'est actif, c'est d'abord les Pyrénées, évidemment, dû à la compression, à la remontée de la plaque africaine vers la plaque européenne. Ensuite, il y a une autre activité sismique qui se trouve plutôt dans le sud-est, et c'est là où à Lambesque, il y a eu un tremblement de terre qui a été dévastateur. Et puis on pense aux Alpes, où ça vibre, et puis on pense à la vallée du Rhin aussi, qui est une vallée d'effondrement. Et puis il y a eu aussi dans les Ardennes, suite à un bassin d'effondrement, il y a ça. Donc personne n'imaginait que la belle Vendée était une zone sismique active, enfin faiblement active tout de même, mais une zone sismique. Alors, juste une petite précision, qu'est-ce qui se passe dans cette région? Il n'y a pas des plaques qui se heurtent, non, ça se passe au milieu de l'Atlantique. En fait, il y a ce qu'on appelle une grande faille sud-armoricaine, enfin un réseau de failles incurvées qui part de l'Atlantique, passe au large de Brest, s'incurve, passe au large de Nantes, et puis arrive dans la Vendée, là où il s'est produit le tremblement de terre. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il se passe qu'en ce moment, et depuis 200 millions d'années, la France, l'Europe et les États-Unis, vous savez, s'écartent à raison de 2 à 3 cm par an. Donc ça a lieu tous les jours. Des tensions s'accumulent. Et à un moment, ces tensions sont libérées. Et elles se libèrent par des failles qu'on appelle des failles transformantes. Un peu comme vous avez une arête principale de poisson. Et puis vous avez des arêtes latérales. Et donc l'une de ces arêtes latérales, c'est la faille sud armoricaine, et c'est là où s'est produit le tremblement de terre. Tremblement de terre, juste, je termine. Magnitude 5, ça commence à être important, mais c'est pas du tout violent. Par contre, le problème, c'est que il était en faible profondeur, et surtout, c'est sur les constructions. Et les constructions, malheureusement, ne sont pas du tout. C'est ce qui fait le charme de cette région, des constructions antisismiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de. À l'époque, il n'y avait pas de chaînage. Ce sont des moellons, vous avez vu, des pierres qui sont avec du mortier. Et dès qu'il y a une bonne secousse, tout ceci se disloque. Il y a des fissures. Et là, le problème, c'est de savoir, est-ce que ces fissures condamnent le clocher, la maison, etc., et les rendra pas habitables, il faudra les évacuer définitivement, ou bien est-ce que ça soit réparable? Ça, je ne sais pas. Seuls les architectes sur place peuvent le dire.
Merci beaucoup, Michel, d'avoir pris un peu de temps de votre passage au Salon du Bourget. On l'identifie bien avec les avions sur le tarmac derrière vous. Merci beaucoup, je pense qu'on a tout compris. Je vous propose de passer d'une faille à un tunnel, avec ces militants anti-tunnel Lyon-Turin qui ont donc mis leur menace à exécution ce week-end, malgré, vous le savez, les interdictions prises. Les Black Blocs, eux aussi, sans grande surprise, étaient au rendez-vous pour s'en prendre aux policiers. Récit d'Augustin Donadieu avec Sarah Fenzari.
Les autorités s'y étaient préparées. Mais les manifestants radicaux attendus par la préfecture se sont quand même rassemblés en tête de cortège.
Vers 15h, un groupe de radicaux s'est constitué en Black Bloc, environ 300 personnes, et ils ont commencé à jeter des pierres et d'autres projectiles sur les unités de force mobile qui étaient en barrage sur le pont. Des sommations ont été réalisées et des gaz lacrymogènes, excusez-moi, utilisés pour maintenir à distance les manifestants hostiles.
Les forces de l'ordre étaient pourtant mobilisées en nombre de 2000 policiers et gendarmes appuyés par des drones et deux hélicoptères pour survoler la zone. Rassemblés sur le pont de la rivière de l'Arc, les policiers ont été la cible de nombreux jets de projectiles en provenance des Black Blocs, comme en témoigne cette caméra embarquée côté gendarmerie. Des heurts que les gendarmes sont parvenus à contenir, notamment grâce au travail effectué par leurs collègues aux frontières, qui ont pu interdire l'entrée sur le territoire à de nombreux radicaux venus de l'étranger.
Même un certain nombre de bus qui ont fait marche arrière à la frontière italienne et qui sont repartis de l'autre côté des Alpes. Donc c'est sans doute des éléments radicaux grâce aux interdictions administratives du territoire qui ne sont pas venus manifester et surtout être violents dans le cortège.
En marge des violences, une partie des quelques 3000 manifestants rassemblés ont traversé la rivière, tenté de bloquer l'autoroute et interrompu la circulation des trains. Le calme est revenu peu après 18h30. 12 gendarmes ont été blessés lors de ces affrontements.
La preuve que quand on veut, on peut, hein, pour rebondir sur ce que disait Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, puisqu'on a procédé là, pour une fois, par anticipation pour les empêcher de sévir encore plus. Gauthier Lebray, tout cela, bien évidemment, avec le soutien d'élus de gauche. On pense à Éric Piolle, le maire de Grenoble, venu, qui plus est, avec son écharpe dans cette vallée Mathilde de la Maurienne, Panot. Mais il n'est pas le seul.
Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis à l'Assemblée nationale. Et j'ai envie de vous dire, quelle surprise, ce n'est pas la première fois. À Sainte-Soline, il s'est passé quoi exactement la même chose. À nouveau avec les soulèvements de la terre que Gérald Darmanin tente de dissoudre, il n'y arrive pas pour le moment. Il faut constituer un dossier solide.
On dit que c'est entre les mains d'Elisabeth Borne.
Aussi, mais ça serait entre les mains du Conseil d'État s'il y a un recours. Et imaginez deux secondes si le Conseil d'État casse la dissolution des soulèvements de la terre, ça serait évidemment un nouveau revers pour Gérald Darmanin, un peu comme quand il tente d'interdire les manifestations de l'ultra-droite et de l'Action française. Donc c'est pas la première fois, Sainte-Soline, s'est passé exactement la même chose. Vous aviez cette fois Marine Tondelier, la chef des Verts, vous aviez Clémence Guettet, pareil avec son écharpe, qui est députée insoumise. Donc oui, à chaque fois qu'il y a un événement interdit, des manifestations interdites avec les soulèvements de la terre, les députés, élus, écolos, insoumis sont aux côtés de ceux qui finissent par s'en prendre aussi aux policiers à travers eux.
On verra d'ailleurs que ce n'est pas le seul exemple du week-end, on y reviendra tout à l'heure, mais quand même, Gabriel Cluzel, on a l'impression qu'effectivement ils entretiennent ce climat insurrectionnel, en tout cas ils y contribuent.
Oui, c'est une insurrection, vous avez raison, et c'est une insurrection qui prend prétexte de tout, parce que très honnêtement, ils sont écologistes, comme moi je suis bouddhiste, parce que le train... A priori, on nous a appris que c'était quand même le moyen, l'alternative de l'avion. Alors on va faire quoi ? On ira de Lyon à Turin en vélo. Alors il développe tout un argumentaire, hein, il y a un autre tunnel, etc. Mais, et je dirais même que quand bien même le fond pourrait être discutable, ce qu'ils font là... Est insupportable d'impunité. Moi, je suis très frappée de voir qu'enfin, on a redécouvert le mot frontière. Ah oui, c'est un gros mot avant, mais ça peut être intéressant pour arrêter des black blocs qui viennent de l'étranger. Hein. Déjà, on a les nôtres, ça suffit. Donc là, apparemment, on a compris qu'on pouvait arrêter des gens à la frontière. Puis il y a évidemment ces élus. Et là, ça en dit long sur le magistère moral de la gauche. Transposer la situation. Imaginez une insurrection de l'extrême droite si des élus du RN ou LR venaient avec leur écharpe. Vous avez raison de le dire, Gauthier Lebray, pour le soulèvement de la terre. Marine Tondelier a participé à une vidéo commune sur YouTube en expliquant pourquoi le soulèvement de la terre, il fallait les soutenir. Sandrine Rousseau les a soutenus. Et vous avez aussi raison de dire que Gérald Darmanin, pour le moment, il soulève pas la terre, il soulève du vent, hein, il brasse un peu l'air.
Bon, lui, il
n'y arrive pas. Donc, moi, je veux bien comprendre toutes les explications. C'est des groupements de faits, vous comprenez. Si on les dissout, il y en a d'autres encore plus radicaux qui vont se constituer. Mais pourquoi n'a-t-on pas eu les mêmes raisonnements ?
Génération identitaire ?
Voilà, génération identitaire. Ils auraient été le quart du huitième de cela. Eh bien, évidemment,
et
ça.
Bah vous croyez pas si bien dire.
De la même façon.
Je vous propose d'écouter ce journaliste qui analyse précisément le fait qu'on dissolve ce genre de mouvement et ce que ça pourrait entraîner derrière comme conséquence.
de nombreux agents de services de renseignement qui nous disaient qu'il y a un risque de voir apparaître un phénomène des poupées russes, c'est-à-dire qu'en brisant cet élan et ce mouvement que constituent les soulèvements de la Terre, on peut voir apparaître de plus petits groupes éparpillés, mais beaucoup plus radicaux et qui n'auront pas, quelque part, l'obligation de faire des compromis avec les plus modérés. Et là, on va vers un risque sécuritaire. Vouloir dissoudre les soulèvements de la Terre, c'est aussi prendre le risque de bâillonner tout un mouvement écologiste ou en tout cas une grande partie. Donc voilà, dissoudre les soulèvements de la Terre, il faut pourquoi pas lancer le débat, mais ce n'est pas du tout sans risque.
Courons-nous un risque plus grand encore, Jean-Claude Dacier, à dissoudre ce mouvement? On vient d'évoquer le cas de Génération Identitaire. Bon, visiblement, ça n'a pas fait des copycats, comme on dit derrière.
Ce que je pense, c'est que ça ne servira pas à grand-chose. Parce que d'abord, il me semble que ce soit une confédération d'associations, que ce soit juridiquement compliqué. Et en plus, franchement, ça ne les empêchera pas de manifester dans 8 jours ou dans 15 jours ou dans 3 semaines à la prochaine occasion qu'ils estimeront mériter la mobilisation. On est, si vous voulez, confronté à cette armée qui se forme, qui est 200, 300, 1000, parfois davantage, qui est portée par une idée forte et force, qui est celle, en gros, que la planète va mourir, qu'on est tous condamnés à un horizon. Alors là, c'est variable, parce qu'on dit un peu tout et n'importe quoi, mais cette idée que si on ne fait rien, si on ne lutte pas contre les désastres écologiques qui nous menacent, ça va très mal se terminer pour nous, et il faut bouger. Et ils ont le sentiment de dire le vrai. Alors, ils sont violents pour un certain nombre d'entre eux, ils en ont quelques autres qui le sont moins, et qui militent pour, mais c'est un combat d'idées. Il va falloir essayer de voir qui a tort, qui a raison dans ce débat. Les hommes disent, font n'importe quoi, disent ces militants, et si on ne fait pas attention, ça va très mal se terminer. Donc, il y a un tunnel. Avec le train en bas, on se pensait que c'était quand même quelque part un projet qui avait du sens et qui allait plutôt dans le sens des écologistes. Pas du tout. En fait, il ne faut rien toucher. Il faut supprimer ce qui est menaçant pour l'avenir de notre planète. Et je crains, dissolution ou pas dissolution, je crains que nous ayons affaire à cette idée forte, appuyée par des militants qui ne craignent plus de frapper et de gesticuler avec des armes contondantes souvent contre les policiers. On est confronté à une situation qui est politiquement très compliquée.
J'aimerais juste vous partager, avant de refermer cette première partie, parce qu'on ne peut pas trop déborder, malheureusement, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui, on a l'impression que pour la planète, tout est légitime, finalement. Hein, toute action, fût-elle violente, est légitime. Et qui dit ceci: je suis absolument contre la dissolution, je suis stupide. Qualifier d'éco-terroriste, c'est utiliser le mot terroriste, utiliser pour la faute d'orthographe, dans des conditions qui sont indécente. Et il compare ça avec le Bataclan en disant qu'on ne peut pas mettre les deux en parallèle. Bon, Jean-Luc Mélenchon, en fait, il fait feu de tout bois en ce moment. Hein. Il s'exprime sur tout et n'importe quoi.
Ah, c'est une stratégie politique, hein, celle du conflit permanent. Hein. Ça a été théorisé. On dit du côté de l'Élysée que Jean-Luc Mélenchon, en gros, c'est un Hugo Chavez au petit pied. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe, même publiquement. Donc ça a été théorisé. Sur le terme éco-terroriste, tout le monde n'est pas d'accord au gouvernement. Hein. Gérald Darmanin l'a employé, on le sait. Elisabeth Borne, dans une interview fleuve au Figaro, a dit qu'elle rejetait cette expression.
Non mais pardon, mais si la dissolution sert à rien, si la dissolution est stupide, pourquoi on dissout, pardon de revenir toujours à la même idée, pourquoi on s'est acharné à dissoudre Génération Identitaire? Il fallait les laisser.
Non mais c'est très clair, Emmanuel Macron a demandé d'accélérer là, sur la dissolution.
Voilà, non, parce qu'il y a une entrée révoltée aussi, une entrée révoltée, on attend toujours la dissolution. D'ailleurs, eux-mêmes narguent le ministre de l'Intérieur en disant: attendez, on l'attend toujours. Donc ils se sont transformés.
Merci, on va avoir l'occasion de reparler de ce mouvement à gauche qui est en train de prendre un petit peu fait et cause pour à peu près toutes les causes qu'ils veulent de leur point de vue défendre de manière légitime, en revenant à cette séance de dédicace plus que perturbée d'Éric Zemmour. C'était à Brest. À tout de suite. Avant de nous retrouver pour la suite du débat, je propose de rejoindre Mickaël Dorian, dont c'est l'heure du JT. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Giorgia Meloni attendue à Paris. Emmanuel Macron recevra demain la chef du gouvernement italien. Annonce de l'Élysée qui précise que cette rencontre intervient dans un contexte mouvementé entre la France et l'Italie. Pour rappel, le mois dernier, les propos du ministre de l'Intérieur avaient suscité de vives réactions. Gérald Darmanin avait jugé Giorgia Meloni incapable de régler les problèmes migratoires de son pays. Gérald Darmanin qui, de son côté, est en visite en Tunisie en compagnie de son homologue allemande. L'objectif est de renforcer les coopérations en matière de sécurité, de lutte contre l'immigration illégale. Côté tunisien, le président Kaïd Sayed espère une aide financière de la France et de l'Allemagne pour surmonter la grave crise économique que traverse le pays. Dans l'actualité également, le salon aéronautique du Bourget qui a ouvert ses portes aujourd'hui pour sa 54e édition. Il accueille près de 2500 exposants jusqu'à dimanche en présence ce matin du chef de l'État Emmanuel Macron. Il s'agit de sa première visite depuis 4 ans. Je vous propose de l'écouter.
Donc un, c'est diffuser les innovations qu'on a. Et on a des avions aujourd'hui qui, par rapport aux générations d'avant, consomment 20 à 30% de moins. Ensuite, c'est de diffuser ces fameux carburants durables, les SAF, et de permettre de les incorporer, parce que là aussi, ils réduisent très fortement vos émissions. Et ça, on est en train de le faire. Vous avez vu tout à l'heure des avions, des hélicoptères qui volaient avec ces carburants. Et qu'est-ce qu'on fait? On développe une stratégie française de production de ces carburants sur notre sol, pour pouvoir produire en France au moins l'équivalent de 6% d'incorporation à notre flotte.
La SNCF devant la justice. L'entreprise ferroviaire est accusée d'atteinte involontaire à la vie d'un animal domestique. Le 2 janvier dernier, malgré l'alerte de sa propriétaire, un chat qui se trouvait sur les rails a été écrasé par un TGV Gare Montparnasse. Bonjour Amaury Bucaud, vous êtes en direct du tribunal judiciaire de Paris et on vient de l'apprendre, il n'y aura pas de procès en correctionnel dans cette affaire.
Effectivement, en fait, lors de ce procès, il y a d'un côté les avocats de la SNCF et de l'autre l'avocat des propriétaires du chat, qui ne sont d'ailleurs pas présents ce jour-ci pour des raisons de santé, et l'avocat des associations de défense des animaux qui se sont constituées partie civile. Et effectivement, la première partie de ce procès était de résoudre la question de savoir si le tribunal de police était compétent pour cette affaire, puisque je rappelle que la SNCF est poursuivie pour atteinte involontaire à la vie d'un animal, qui est une infraction passible de 450 euros d'amende. Alors les parties civiles ne sont pas d'accord avec cette qualification et voudraient que la SNCF soit poursuivie pour avoir donné la mort à un animal, ce qui serait effectivement un délit, qui serait jugé devant le tribunal correctionnel et passible de 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende. Alors finalement, le tribunal de police a tranché, il s'est dit compétent pour juger cette affaire, et donc là le procès est passé dans une seconde partie avec l'audition notamment du chef d'escale qui était présent ce jour-là, qui a tenté de porter secours au propriétaire du chat, qui dit qu'il n'a vu finalement le chat qu'au départ du train et que c'était malheureusement trop tard. Et maintenant, là, eh bien, c'est l'audition actuellement du contrôleur du train qui a débuté maintenant il y a quelques instants.
Merci beaucoup Amaury Bucaud. Les orages ont fait d'importants dégâts ce dimanche sur une grande partie du nord et du sud-ouest de la France. Une tornade a même été observée, vous le voyez sur ces images en Seine-Maritime, dans la commune de Motteville notamment, où s'est rendue Mathilde Ibanez.
Eh bien écoutez, pas mal de dégâts ici, comme par exemple cette toiture. Eh bien plusieurs toitures comme celle-ci ont été soufflées par la tornade qui a touché Motteville hier. Beaucoup d'arbres également ont été arrachés dans les jardins. Les tables et les chaises ont été balayées, renversées. En tout, c'est près d'une trentaine de maisons qui ont été touchées légèrement pour la grande majorité. Le maire souhaiterait qu'un état de catastrophe naturelle soit reconnu après ces intempéries hier. Une tornade, je vous le disais, qui a fait pas mal de dégâts. Une personne a été légèrement blessée à la tête. Des dégâts qui sont également à déplorer puisqu'un entrepôt a été soufflé, ainsi que les écuries d'une salle de réception. Des bâtiments communaux aussi ont été touchés par cette tornade. Hier, vers 16h, une cellule de crise a été ouverte dans cette salle des fêtes par le maire. L'école, qui se trouve juste à côté, eh bien, va rester fermée ce lundi. Aucun dégât n'est à déplorer à l'intérieur, mais par mesure de sécurité, les enfants seront accueillis dans cette salle des fêtes pour les parents qui ne peuvent pas les garder aujourd'hui.
Et à noter que selon Météo France, plusieurs épisodes orageux sont prévus jusqu'à jeudi. 15 départements du sud-ouest au nord-est de la France sont d'ailleurs classés aujourd'hui en vigilance orange. De violents orages et des rafales de vent de plus de 100 km/h sont attendus localement. Allez, l'actualité continue à présent sur CNews. Bon après-midi, vous retrouvez tout de suite Nelly Denac et la suite de 90 Minutes Info.
Merci beaucoup, Mickaël. On vous retrouve pour votre part demain avec grand plaisir. Retour à Brest, en Bretagne, où des dizaines d'antifa et adhérents de la CGT, on en a vu, ont tenté de faire intrusion dans cet hôtel donc, où avait lieu la séance de dédicace du livre d'Éric Zemmour. Plusieurs personnes blessées ou choquées. Je vous propose de regarder les images les plus fortes de cette tentative d'intrusion. Inutile de dire, Gauthier Lebret, qu'il n'a pas eu énormément de soutien. D'ailleurs, il s'en est plaint, y compris de la part des pouvoirs publics, Éric Zemmour, et il demande même des sanctions, que des sanctions soient prises à l'encontre du préfet aujourd'hui.
Et il a déposé plusieurs plaintes, dont une contre l'État. Reconquête va déposer plusieurs plaintes, une contre l'État. Vous voyez le communiqué de presse qui annonce effectivement la décision d'Éric Zemmour de déposer plainte donc contre l'État, et une vingtaine d'organisations, parce qu'il y avait une manifestation en marge du déplacement d'Éric Zemmour, et c'est parce que la manifestation a dérapé et est allée cibler le lieu et les personnes qui participaient à cette dédicace. Donc, par exemple, il y a une plainte aussi contre la CGT. Alors, effectivement, oui, dans la classe politique, pas grand monde, pour ne pas dire personne, n'a réagi. C'est faux. Il y a eu des réactions chez les Républicains, notamment. Voilà, j'en ai vu quelques-unes passer chez les Républicains dans cette partie de l'échiquier politique, donc c'est-à-dire à droite. Mais en face, effectivement, et même au centre, personne n'a réagi. On imagine que si Jean-Luc Mélenchon avait fait une dédicace pour un nouveau livre, pour se lancer, pourquoi pas, dans une nouvelle campagne présidentielle, et qu'il avait été attaqué par une horde de l'ultra-droite, je ne prends pas beaucoup de risques en disant qu'il y aurait eu plus de réactions politiques. Alors parfois, et oui, il y a aussi une chose, c'est qu'on présente, certains médias, notamment locaux, ont présenté la chose comme un affrontement entre pro et anti-Éric Zemmour, alors que ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque effectivement, ses partisans ont été la cible d'Antifa. Il y a eu dans le passé, j'ai suivi sa campagne, des heurts entre pro et anti-Zemmour, notamment sur le port d'Ajaccio. Mais c'est vrai qu'Éric Zemmour, il n'a pas arrêté, le temps de sa campagne présidentielle, de jouer à cache-cache avec les Antifa, que ça soit à Marseille ou à Nantes. Même lui, parfois, il a
sous-estimé. Là, c'était pas le cas, hein, on l'a bien vu.
Non, c'était pas le cas. Et parfois, il a lui-même sous-estimé la violence. Quand Emmanuel Macron s'était fait gifler, il avait dit bon, bah oui, mais c'est parce qu'il a désacralisé la fonction. Donc voilà. Et après, certains lui reprochent, comment dirais-je, une responsabilité dans le climat de violence, par exemple à Saint-Brévin, quand le maire a été attaqué, vous vous en souvenez, à Saint-Brévin, sa maison brûlée, ses voitures brûlées. Mais ce qui est très clair, c'est que hier, il y a des sympathisants d'Éric Zemmour, ou du moins des lecteurs d'Éric Zemmour, qui ont été attaqués parce qu'ils étaient à une dédicace, qui n'a pas eu de heurts, et que la classe politique, hormis la droite, met du temps à réagir.
Alors, regardez, il a fait un long tweet, enfin plutôt un long thread, comme on dit aujourd'hui, Éric Zemmour, où... Il ne mâche pas ses mots. Hein. Il parle de cette attaque en cours. Donc là, on était vraiment dans la temporalité immédiate. Et il parle de triple scandale. Alors déjà, il dit qu'il y a des milices d'extrême gauche soutenues par LFI qui ont attaqué la dédicace, très bien. Les antifas les plus violents capables d'approcher mes sympathisants. Pourquoi ? Ça, c'est le rôle de l'État qui ne l'a pas protégé. Il s'en prend d'ailleurs directement au préfet du Finistère. Enfin, le comble, il voit que la presse, au lieu de s'indigner, parle désormais d'affrontement, on sent qu'il en a un peu gros sur la patate. Nicolas Dupont-Aignan, on parle des soutiens, a dit quand même, il a volé à son secours, il a dit que c'était abominable ce qui s'est passé, Gabriel Cluzel.
Non mais le problème, c'est, je crois que personne ne se rend compte, c'est que ça touche Éric Zemmour, mais pas que Éric Zemmour. Alors, ce serait déjà un problème si ça ne touchait qu'Éric Zemmour, parce qu'il a le droit, de dédicacer, ou alors il faut interdire. Il faut dire qu'Éric Zemmour est hors du champ de la loi. Mais à partir du moment où il a le droit d'écrire des bouquins et de les dédicacer dans un hôtel, et les gens sont libres d'aller demander cette dédicace. Vous savez, il y avait des dames âgées, on en voit du reste sur la vidéo. Il y avait des jeunes filles qui allaient chercher un livre pour la fête des pères. Enfin, il y avait un public très pacifique, et ceux-là ont été non seulement empêchés d'acheter le livre, mais ont eu très peur. Enfin, alors, quand je dis il n'y a pas qu'Éric Zemmour, c'est que ces activistes d'ultra-gauche touchent à peu près tous les intervenants, alors qu'ils qualifient d'extrême droite, de réactionnaires ou même de conservateurs. Il y a 10 jours, il y a Odmyrkovic, des juristes pour l'enfance, qui faisait une intervention sur les interrogations, sur les transitions de genre. Elle n'a pas pu faire sa conférence à Niort. Hein, elle est invitée par les associations familiales catholiques. Vous voyez, des dangereux nervis d'extrême droite. Elle n'a pas pu le faire. Moi-même, j'ai vécu cela. Je vous assure que c'est épouvantable. Des septuagénaires en escarpins se font traiter de salopes, de putes. Non, mais je le dis parce que c'est ainsi craché à la figure. Et c'est récurrent, et la presse locale a toujours le même discours, et c'est quand même une grosse interrogation sur la collusion d'une certaine presse avec l'ultra-gauche.
C'est toujours plus acceptable, pardonnable.
Pardon ?
C'est toujours plus acceptable.
Voilà, alors déjà, c'est deux phrases. La première qui a été prononcée par un journaliste sur une autre chaîne, qui sème le vent récolte la tempête. Donc finalement, l'agressé serait un peu responsable. Hein, vous voyez, on peut dire ça de Samuel Paty, on peut dire ça de beaucoup de gens. Hein, cette phrase, elle est quand même éminemment dangereuse. Hein.
Il y a même demandé s'il participait d'une certaine manière à la radicalisation.
Exactement. Et le deuxième point, c'est de dire, et vous l'avez signalé, qu'il y a eu un échange de coups. Non, pardon, une septuagénaire, une petite dame qui vient chercher son bouquin, qui est face à un black bloc et qui se fait menacer, cracher dessus, conspuer par un black bloc. J'appelle pas ça un échange de coups. Donc c'est profondément malhonnête.
Jean-Claude, est-ce qu'on est dans le... Jean-Claude, là je pense qu'elle n'était pas en train de s'opposer à vous du tout. Jean-Claude, est-ce que finalement on est en train d'entrer lentement mais sûrement dans une forme de royaume de la pensée unique
où tout ce qui sort du champ déjà depuis un certain temps. Moi je pense d'abord que le préfet a fait une grosse boulette. Je crois qu'il n'a pas vu ou il n'a pas compris. Ou il s'est complètement trompé, ou il a agi sur ordre, ou
il n'a pas voulu voir. Parce qu'il y avait une manifestation
déclarée. Je pense que là, honnêtement, d'accord ou pas d'accord avec Zemmour, on ne peut pas laisser passer une situation comme celle-là. Si il faut maintenant se protéger quand on va signer un livre tel ou tel, dans telle ou telle ville ou dans telle ou telle région de France, ce n'est pas acceptable. Je pense que le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin va être obligé de prendre un certain nombre de décisions, je ne sais pas s'il le fera, pour essayer de rétablir ce qui devrait l'être dans un pays qui pratique une certaine démocratie. C'est ce qui était quand même le cas dans la belle France des années 50 et 60. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus tolérable d'un gars qui vient pour signer un bouquin et qui est reçu de cette façon-là. On est, vous avez raison, on file un très mauvais coton.
Gabriel Cluzel, un petit adendum.
Oui, non, je voulais revenir sur un point. Vous disiez qu'il faut que le ministre de l'Intérieur réagisse. Je me souviens qu'en septembre dernier, Jordan Bardella, qui a d'ailleurs soutenu Éric Zemmour, il fait partie de ceux qui ont soutenu, lui-même participait à une fête champêtre d'une section Rassemblement National.
C'est un scoop.
En Bretagne, non, je n'ai pas de scoop sur ce plan-là. Donc il y avait beaucoup de familles et d'enfants, ils ont été attaqués par des antifas. C'était vraiment tout à fait les mêmes circonstances. Et ça devait être plutôt du côté de Rennes, je crois, à Bruges. Et ils ont été obligés de partir sur un lieu privé, hein, de s'enfermer. Les enfants ont eu excessivement peur. Donc, si vous voulez, le ministre de l'Intérieur, il est au courant. Je me souviens, j'avais été en contact avec un militant qui racontait son histoire, donc pour que je puisse faire mon article. Et il m'avait dit, c'est pas Gérald Darmanin, c'est Gérald Darmarien, il fait rien. Voilà.
Bon, bah, bravo pour la punchline. On dirait du Jean Messia. Pardon, non, la comparaison s'arrête à la punchline. Je voulais vous parliez de la droite. Bruno Retailleau, lui, s'attaque au syndicat des magistrats. Vous allez voir, il y a quand même un fil conducteur dans tout ça. Il reproche aux juges la contre-circulaire qu'ils ont rédigée il y a quelque temps en réponse au garde des Sceaux. Vous savez, il avait donné des instructions dans toutes les affaires d'infractions commises pendant les manifestations. Et l'élu de Vendée dénonce les méthodes employées par ce syndicat. Regardez ce qui est en jeu avec Augustin Donadieu.
Ce sont 14 pages qui n'épargnent pas l'exécutif. Le syndicat de la magistrature a publié une contre-circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises par des manifestants. Les syndicats dénoncent entre autres un maintien de l'ordre intrinsèquement violent.
La réalité démontre au contraire un dévoiement du maintien de l'ordre contre les manifestants eux-mêmes. Utilisation des NAS, garde à vue préventive, violence constatée sur des manifestants défilant pacifiquement, intervention sur des cortèges sans difficulté apparente.
Dans le journal du dimanche, le président des Républicains dénonce un document édifiant.
C'est un appel à contourner les instructions du garde des Sceaux. L'objectif est assumé, encourager les juges à ne pas appliquer les consignes de leurs ministres de tutelle. Une aubaine pour les Black Blocs qui détiennent avec ce document un permis de casser. Les cagoules noires peuvent courir en paix. Ses complices, à Col d'Hermine, assurent leurs arrières.
Bruno Retailleau poursuit.
Le syndicat de la magistrature diffuse un véritable guide pratique de l'impunité. Tout y est, du mode d'emploi pour déclarer une garde à vue illégale jusqu'à la marche à suivre pour engager des poursuites contre les forces de l'ordre, accusées de créer l'escalade de la violence.
Le chef de file du parti de droite au Sénat précise cependant que le syndicat ne représente pas l'ensemble de la justice. L'Union syndicale des magistrats n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Bon, Gauthier, c'est intéressant cette expression de permis de casser. En tout état de cause, on peut quand même s'interroger sur cette forme de complaisance, voire même de collusion avec ceux qui commettent des méfaits.
Le syndicat de la magistrature, je rappelle pour nos téléspectateurs, à l'origine du fameux mur des cons où étaient placardées toute une série de personnalités de droite.
Dont des pères de victimes.
Et qui n'ont jamais été vraiment sanctionnés.
Bien sûr. Et dans l'actualité récente, il y a aussi eu Mayotte, où le syndicat de la magistrature a été mis en cause, puisque celle qui a cassé les décisions du ministre de l'Intérieur, à savoir Gérald Darmanin, de démanteler les bidonvilles, eh bien, elle était vice-présidente du syndicat de la magistrature. Donc là, à nouveau, évidemment, ce syndicat a été pointé du doigt, puisqu'il est classé à gauche, il placarde sur un mur des cons des personnalités de droite. Donc forcément, quand il s'oppose comme ça au ministre de l'Intérieur, il y a un soupçon, mais que le syndicat de la magistrature a lui-même créé.
En tout cas, le recrutement de magistrats, la formation des magistrats, on en parle assez régulièrement. Ça doit évoluer. Il faut peut-être élargir un peu le panel pour qu'il soit plus représentatif de notre société aujourd'hui.
Écoutez, il faut trouver des solutions pour mettre fin à ce qui ressemble à une forme d'auto-recrutement à gauche. Pardon, mais c'est exactement ce qui se passe. Comment voulez-vous que les Français aient confiance en leur justice ? On passe leur temps à dire... à dire, ah oui, il ne faut pas commenter les décisions de justice, mais il y a un moment où ça devient proprement insupportable. Mais ce n'est pas d'hier. Je vous rappelle que le syndicat de la magistrature est né en 68 et son texte fondateur, c'est la harangue Baudot qui revendique sa partialité, qui dit, bah, moi, je défendrai le prolétaire contre le bourgeois, mais quand bien même il aurait tort. C'est comme ça, parce que c'est ainsi. Donc, si vous voulez, c'est insupportable, c'est très politique. Alors, c'est vrai qu'ils sont, Bruno Retailleau a raison de dire qu'ils ne sont pas toute la magistrature. Néanmoins, ils ont fortement augmenté en proportion aux dernières élections professionnelles. Je crois qu'ils représentent quand même 33% des magistrats. Il y a de quoi s'inquiéter, très honnêtement. Et de fait, je ne vois pas très bien comment Gérald Darmanin peut espérer faire quelque chose.
Allez, il nous reste 5 minutes.
Je dirais simplement que c'est un texte, pour moi, qui est d'une gravité exceptionnelle.
Et qui ça vous a surpris ou c'est quelque chose que vous
connaissez? Moi, si j'ai à ce point, affiché à ce point...
Oui, là, on veut faire
la justice soi-même, celle qui vous convient, parce que vous êtes un militant, parce que vous avez fait des choix politiques, des choix sociétaux que vous voulez faire passer dans les affaires judiciaires. C'est à mes yeux d'une gravité exceptionnelle. Ça montre à quel point la situation de la démocratie en France est gravement atteinte et gravement malade. Quand M. Macron a nommé M. Dupond-Moretti, je crois que c'est le syndicat sous ton contrôle des magistrats, enfin le SM, qui avait déjà dit « c'est une déclaration de guerre ». Ça, c'est la réponse très claire. Nous allons faire la justice que nous estimons juste. On n'a rien à voir avec la politique judiciaire que M. Dupond-Moretti, voire au-dessus, veut mettre en œuvre. Donc, c'est la justice, comment dire, à la tête du client. Vous tombez bien, ça peut passer. Vous tombez mal, ça passe mal. Ne vous étonnez pas. Ne nous étonnons plus que des dizaines et des dizaines de manifestants, ils ont le droit de manifester, le problème n'est pas là, mais qui ont commis parfois des actes, comme à Sainte-Soline ou ailleurs, d'une certaine gravité.
Une sorte de carte blanche, de blanc-seing,
entre les magistrats et Éric Dupond-Moretti est tellement profonde que ça lui vaut une mise en examen aujourd'hui. Donc,
On est dans une confusion judiciaire qui est d'une extrême gravité pour le fonctionnement de la démocratie dans ce pays. Il faudrait que M. Macron s'en soucie.
Alors, qui a dit « l'abaya n'est pas un problème » à l'école? Bravo, 3 points. Le problème est ailleurs. Évidemment, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'était ce week-end sur une chaîne info. La réponse, alors, c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler encore et encore, parce que la réponse de Julien Drey, qui est chroniqueur sur notre antenne tous les week-ends, vaut quand même son pesant d'or. On a choisi un extrait
ensemble au PS.
Un peu in extenso. C'est surtout, voilà, venant de Julien Drey, c'est quand même très intéressant de voir le recul qu'il a sur le personnage.
Écoutant cette déclaration, j'ai pensé au professeur qui, demain matin, va être devant sa classe et qui, depuis des semaines et des semaines, se bat courageusement, souvent pas totalement soutenu par son administration, contre le port de signes religieux à l'école. Et je me dis que dans sa classe, demain matin, eh ben, il risque d'y avoir des élèves qui vont dire « Mais monsieur Mélenchon, c'est pas n'importe qui. Il a failli être président de la République et Premier ministre. Il a dit que notre vêtement n'était pas religieux et qu'il fallait nous laisser tranquilles. » Quelle est la... Vous rendez compte pour le professeur l'abandon que ça représente ? L'abandon, et j'emploie cette expression délibérément, pour quelqu'un qui a été ministre de la République, ministre de la formation professionnelle. Mmh. Je pense à tous ces professeurs qui, demain matin, vont se retrouver dans une situation où, finalement, puisque ce n'est pas un vêtement religieux, puisque c'est simplement un vêtement comme ci, comme ça, voilà, alors, ça ne sert plus à rien. Et ce personnage-là, et vous voyez, je suis très dur ce soir avec lui, se prétend avoir été un grand républicain. Un grand républicain de dire cela, qui est un mensonge. C'est un mensonge.
Effectivement, ils ont milité longtemps ensemble avant que Jean-Luc Mélenchon ne claque la porte pour fonder le parti de gauche. C'est, il a raison, ça va comment dire, encourager une forme de renoncement de la part du corps enseignant.
Alors oui, déjà, il y a le pas de vague, effectivement, qui pourrit l'éducation nationale. On sait que les atteintes à la laïcité sont complètement sous-évaluées à cause de ce pas de vague. Mais sur Jean-Luc Mélenchon, quand vous changez aussi radicalement d'avis, parce que je veux dire, le placard à archives où Jean-Luc Mélenchon s'oppose au voile, il est rempli. Pourquoi il change radicalement d'avis? Il a perdu le vote ouvrier au profit de Marine Le Pen.
Quelle voie a-t-elle retrouvée?
Et ça va être la fin de mon développement.
Bien sûr.
Et ce week-end, dans le JDD, hier, il y avait une enquête très intéressante sur le RN et la France Insoumise. 27% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont déjà voté pour Marine Le Pen ou pour l'un de ses candidats. 27%. Autre chiffre, 69%. 69% des électeurs musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Ça avait même inquiété, c'est une révélation d'Europe 1, les renseignements intérieurs. Ça ne veut pas dire en plus que les 69% qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon d'électeurs musulmans sont d'accord avec ce qu'il dit sur l'abaya. Je suis absolument certain qu'il y a de nombreux musulmans qui regrettent ces polémiques autour de l'abaya à l'école.
Vivier. Clientéliste.
Ah mais c'est purement électoraliste, ça a été théorisé, tout le monde le sait, il suffit d'échanger avec les entourages de la France Insoumise pour le comprendre. Hein.
Alors ça va trop loin, on ne peut pas à ce point par pure ambition électorale dire tout et n'importe quoi, y compris au mépris des profs, parce que c'est toi que ça met dans l'embarras aussi.
Non, on atteint des abîmes de mauvaise foi, sauf qu'il y a une phrase, un bout de phrase dans la citation que vous donnez qui est intéressante, c'est qu'il dit à la fin les mœurs se changent, donc finalement... Par là, il dit le contraire de ce qu'il dit au début. Au début, il dit, bon, l'abaya, non, c'est pour les jeunes filles adolescentes, mal dans leur peau. Oui. Enfin, j'ai compris
de
ça.
Facto,
hein.
Il reconnaît qu'il y a quelque chose...
Voilà, donc c'est quoi les mœurs ? Les mœurs, c'est l'expression d'une civilisation. Ouais. Et une civilisation, disait Malraux, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Donc c'est une offensive culturelle, plus large que culturelle, parce que c'est une façon de contourner tous ceux qui ont pu s'opposer au voile islamique en essayant de faire toucher les fils, en disant, mais attendez, c'est pas musulman, c'est juste une robe. Alors évidemment, pourtant, je vois pas beaucoup d'autres personnes porter ces vêtements-là.
Jean-Claude, est-ce que vous iriez jusqu'à dire aujourd'hui, et si vous pouvez en moins de deux minutes, ce serait super, que LFI se bat, d'une certaine manière, contre la laïcité et ouvertement?
J'hésiterai à aller jusque-là, mais quand on écoute, en effet, M. Mélenchon, on doit bien reconnaître que, au nom d'une certaine vision de la laïcité, qui est au fond très tolérante, très ouverte, il justifie le port de l'abaya. Je pense qu'il ne se rend pas compte des conséquences à moyen et long terme, et place en outre, c'est pas peut-être le plus grave, mais néanmoins toute l'institution de l'éducation nationale, et notamment M. Ndiaye, à côté. Il les gêne. Pourquoi? Parce que M. Ndiaye, une fois encore, a dit ce sont aux directeurs d'établissement, aux proviseurs, aux responsables, d'apprécier, de discuter avec les filles qui portent une abaya et de voir si c'est de la politique ou si c'est au fond un vêtement comme les autres. Donc nous avons face à M. Mélenchon qui dit la laïcité peut parfaitement tolérer le port, même s'il ne l'a pas dit comme ça, hein. Le port de l'abaya dans les écoles ne remet pas en cause son choix de laïcité. En revanche, il ajoute à une confusion qui, dans les écoles, comme l'a dit très justement Julien Drey, ne va pas aider les enseignants.
Puisqu'on parle de Pape Ndiaye, juste un mot avant de vous laisser partir, Gauthier, et merci d'être resté une heure en notre compagnie. On en est où du remaniement?
Ça tâtonne. Ça tâtonne. Vous savez qu'il y a des candidats qui se montrent tellement pour Matignon que parfois ils font des gaffes. Richard Ferrand a voulu bien faire en donnant un signe à Emmanuel Macron en disant « Je suis pour que le président fasse trois mandats et qu'on change la constitution qui limite à deux mandats successifs ». Il a fait un tweet ensuite pour dire que les journalistes étaient consternants et avaient mal compris. Il suffisait de lire l'interview parce qu'il s'est pris, à mon avis, un petit coup de fil d'Emmanuel Macron au passage. Donc, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura un remaniement in fine. Il y a de nombreux candidats et évidemment, Pape Ndiaye est sur la sellette. Mais bon, vu ce qu'il a fait sur le dossier du harcèlement, les atteintes à la laïcité, qu'il arrive à comptabiliser tant bien de mal, même si elles sont sous-évaluées, il arrive pas à
comptabiliser. Non, parce qu'on parlait du zèle. Vous
vous rendez compte qu'il est nommé depuis un an, à peine.
On parlait du zèle de certains ministres.
Franchement.
C'était Christophe Béchu à se montrer et absolument rester au.
Mieux vaut être aux côtés des populations victimes, décréter la catastrophe naturelle plutôt que quand il y a des incendies en Gironde, se planquer ou être en vacances.
Merci beaucoup, Gauthier, d'être passé parmi nous. Dans un instant, petite pause et puis on reviendra à ce qui s'est passé du côté de Villers-Cotterêts où certains jeunes font régner la terreur sur fond de trafic de drogue dans des quartiers où vivent des familles durablement d'ailleurs installées avec de nombreux enfants. Certains ont voulu leur faire entendre raison et ils l'ont amèrement regretté. À tout de suite. La dernière partie de notre émission débute juste après. Un rappel des titres avec Somaya Labidi à nouveau. Rebonjour Somaya.
19 départements du sud-ouest au nord-est classés en vigilance orange pour orage. Des rafales de vent de plus de 100 km/h sont attendues localement selon Météo France. Des orages remontent actuellement sur le pays du sud-ouest vers le nord-est. Les orages les plus violents sont attendus cet après-midi sur un axe allant du Poitou-Charentes à la Champagne. Suicide de Lucas, les quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement font appel. Leurs avocats reprochent au jugement de ne pas individualiser les agissements reprochés à chaque collégien. Lucas, 13 ans, s'est dit suicidé le 7 janvier dernier après avoir écrit un mot exprimant sa volonté de mettre fin à ses jours. Les proches de l'adolescent avaient dénoncé des faits de harcèlement, révélant les moqueries et insultes à caractère homophobe dont il s'était dit victime de la part d'autres élèves de son établissement. Et puis, violente bataille en Cisjordanie, 4 Palestiniens tués et 60 de blessés lors d'un raid militaire israélien à Jenin. D'intenses affrontements ont eu lieu dans cette ville du nord de la Cisjordanie occupée où des missiles ont été tirés par un hélicoptère israélien. 7 membres des forces de sécurité israéliennes ont été blessés et hospitalisés dans cette opération selon l'armée.
Merci beaucoup. Tandis que sur ce plateau, nous a rejoint Célia Barotte. Bonjour Célia. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter à la rédaction. Alors, on vous a fait venir parce que vous avez suivi cette affaire du procès d'un homme de 19 ans, jugé à Soissons, pour avoir agressé une famille, précisément le père et la mère. Ils ont 6 enfants, ce couple. C'était à Villers-Cotterêts. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, et vous allez nous la raconter plus avant tout à l'heure, c'est que la famille a été contrainte de déménager. Alors, je vous propose de regarder ce reportage que vous avez réalisé. Et puis après, on parle des antécédents, notamment du prévenu aujourd'hui.
Dans ces immeubles d'apparence tranquille, le trafic de drogue prospère. Le 9 novembre dernier, excédée par les nuisances quotidiennes des dealers qui occupent les parties communes, cette mère de famille est intervenue. Elle a demandé à plusieurs individus de quitter la cage d'escalier avant d'être avec son mari roué de coups.
Ils m'ont projeté par terre, donc j'ai eu le bras cassé. Et après, ils ont traîné mon mari dans les escaliers. Couché par terre. On continuait à le taper. Moi, au passage, ils m'ont écrasé les jambes parce que ils sont passés sur moi. Après, mon fils a ouvert la porte en haut. Mon chien a aboyé et du coup, ils se sont sauvés.
Choqués par cette violente agression et après avoir reçu plusieurs messages d'intimidation, la famille a déménagé à une 20aine de kilomètres. La mère des 6 enfants souffre toujours de son bras et son autonomie est réduite. Et malgré les nombreux courriers envoyés à l'État, les victimes dénoncent des autorités laxistes avec le jeune homme récidiviste.
C'est une personne qui est sous contrôle judiciaire, qui se retrouve à un endroit où il n'a pas lieu d'être, à une heure où il n'a pas lieu d'être. On est obligé de s'engueuler en fait avec les gendarmes pour qu'en fait ils fassent leur travail. Et quand ils venaient, c'était juste un contrôle d'identité et puis on laisse tout le monde repartir.
Avant l'agression de cette famille, le jeune homme de 19 ans était déjà connu par la justice pour 2 autres agressions, un refus d'obtempérer et une conduite sans permis.
Alors déjà, on va souligner le courage de cette femme, mais malheureusement, c'est toujours la loi du plus fort qui l'emporte. Alors Célia, où en est-on de ce procès? Que s'est-il passé au procès?
Donc aujourd'hui, ce jeune homme de 19 ans était jugé pour l'agression de cette famille, mais pas que. Il y avait également dans les chefs d'accusation l'agression de deux autres familles, d'une autre famille et d'un homme, qui ça s'est déroulé en août dernier, mais aussi pour un refus d'obtempérer et une conduite sans permis. Donc plusieurs chefs d'accusation aujourd'hui traités pour cet homme de 19 ans. Le procureur de la République a requis à son encontre un an de prison, dont 8 mois avec sursis. Les 4 mois fermes probablement seront aménageables. C'est une peine assez, enfin des réquisitions que regrette la famille, selon notre envoyé spécial qui nous a relaté les faits, parce que pour eux, ils ne sont pas entendus et ça ne vaut pas le coup.
Pas assez sévère, en tout cas.
Voilà, pas assez sévère. Ça ne vaut pas le coup de porter plainte, selon eux. En tout cas, moi, j'ai pu me rendre sur place dans cet immeuble où le trafic de drogue est affiché au grand jour, les tarifs des stupéfiants est tagué sur les immeubles. Il y a vraiment un climat d'insécurité dans cet immeuble. Et un immeuble dans lequel cette famille a dû déménager à une vingtaine de kilomètres. C'est un quotidien qui a été complètement bouleversé pour cette famille.
D'autant qu'on le rappelle, donc, ça n'est pas un inconnu, loin de là, services de police et justice. Il a un certain nombre d'antécédents déjà.
Il y a eu des condamnations, justement, juin 2022. Il a été condamné pour un refus d'obtempérer et des insultes et des menaces envers des gendarmes. Des peines, des faits pour lesquels il a écopé d'un stage de sensibilisation et une amende. Également, en janvier 2023, il a à nouveau menacé de mort des gendarmes et un nouveau refus d'obtempérer pour lesquels il a obtenu 9 mois de sursis probatoire, un stage de citoyenneté et 105 heures de travail d'intérêt général.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce jeune homme, il ne craint pas trop la justice. Bonjour Jocelyn Dossigny, merci d'être avec nous via Skype. Vous êtes député Rassemblement National de l'Aisne. Alors, cette famille qu'on évoque, qui a dû, elle, se déplacer pour pouvoir vivre, ou en tout cas aspirer à vivre paisiblement, vous l'avez rencontrée. Que vous a-t-elle dit? Quel est son témoignage?
Oui, effectivement, je les ai rencontrés, puisque moi, ma permanence est juste à côté de ce trafic de drogue, où je me suis installé là volontairement, de manière à ce que les gens, les citoyens, ne se sentent pas seuls et isolés, leur montrer qu'également, on est là. Donc ces gens, je les ai rencontrés, ils ont vécu pendant plusieurs semaines avec la peur au ventre, parce qu'ils n'osaient plus sortir de chez eux. Ils ont été obligés de déscolariser leurs enfants parce qu'ils ne pouvaient plus sortir de chez eux. Ils ont été menacés par l'enseignant des enfants de les dénoncer auprès de l'académie. Donc c'est eux qui ont été déjà en premier lieu victimes. Ils sont venus me voir parce qu'ils recherchaient un autre logement. On a essayé de les aider au mieux qu'on pouvait. La sous-préfecture de Soissons a également essayer d'appuyer certains dossiers par rapport aux éléments qu'on a eu, puisque moi je suis remonté jusqu'au préfet pour essayer de les aider, de les accompagner. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que ce sont les victimes qui doivent déménager, et les petites frappes, les délinquants qui continuent à exercer leur trafic de drogue, qui continuent à exercer leurs méfaits, puisque peu de temps après, on a eu une autre attaque au tournevis où un jeune homme a été blessé grièvement. Il y a quelques semaines, la police municipale m'en fait part de plusieurs coups de feu dans un autre quartier, mais toujours avec les mêmes individus. Donc il y a une montée de la délinquance et liée au trafic de drogue sur la périphérie de la région parisienne, qui prospère et pour lesquelles aujourd'hui on n'arrive pas à avoir une réponse judiciaire satisfaisante. Vous disiez tout à l'heure, un an et 8 mois, c'est rien du tout. Ça veut dire qu'il va être libéré, ressortir libre dans la rue demain.
Ce qu'on comprend donc, c'est qu'elle est loin d'être seule dans ce cas, cette famille. Hein, il y a d'autres témoignages qui émanent. Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'abandon de la part... on est en zone gendarmerie ou en zone police, de la part des pouvoirs publics, en tout cas?
Alors, on est en zone gendarmerie. Je parlais de la police municipale, parce que le maire a beaucoup travaillé aussi avec la police municipale sur ces dossiers de trafic de drogue sur la ville. Moi, j'étais son adjoint jusqu'à mois de juin dernier, puisque j'ai été élu député à cette occasion. Et on a toujours essayé, et moi depuis un an, j'essaie de mettre les pressions d'alerter le préfet, d'alerter les ministres. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur, en question écrite au gouvernement au mois de décembre, pour l'alerter sur cette situation-là. J'ai toujours pas de réponse. Vous voyez, même un simple courrier du ministère depuis le mois de décembre, on n'a pas de retour. Le préfet, à chaque fois que je le rencontre, à chaque fois qu'on échange ensemble, je l'alerte sur ce trafic. Alors je salue aujourd'hui le travail de la gendarmerie de Villers-Cotterêts et de Soissons qui œuvrent au maximum de leurs moyens, mais simplement, s'ils n'ont pas les ordres suffisant et s'ils n'ont pas, de la part de la du procureur de la République et du préfet, il n'y a pas une intention de mettre à mal ce trafic, il continue à prospérer. Il y a une très belle opération qui a été menée il y a moins de 10 jours. Et pour autant, aujourd'hui, on est toujours au même point. Et les réponses judiciaires sont insuffisantes. Donc oui, il y a un abandon et il y a une impunité, une abandon de l'État et une impunité pour ces trafiquants qui aujourd'hui prospèrent librement.
Merci beaucoup, Jocelyn Dessigny, d'avoir répondu à nos questions. Enfin, vous pouvez rester avec nous pour assister à la fin du débat. On va essayer d'y inclure Jean-Claude Dacier et Gabriel Cluzel, dont je ne doute pas qu'elle aura une réaction assez vive à cette impunité. Voilà, encore une fois, le mot doit être prononcé quand même.
Cette affaire, elle est symbolique à bien des égards. Alors déjà, je note qu'avec ces affaires terribles, on fait le tour de villes qui fleurent bon l'histoire de France, hein, Soissons, le Vase de Soissons, Villers-Cotterêts, les ordonnances de Villers-Cotterêts qui ont mis la langue française dans les documents administratifs, enfin, des actes fondateurs. Ouais. Voilà, c'est vraiment la France profonde. Ouais. Et on ne savait pas que ces coins de France étaient devenus rongés par l'insécurité. Ce qui est terrible, c'est que en fait, il y a un anti-ordre qui s'est installé. Si cette famille doit partir, c'est un peu comme dans les cas de harcèlement, c'est que le quartier est tenu par d'autres, l'ordre, il y a un ordre, hein, mais il n'appartient plus, à l'État français, ouais, visiblement. Et on a le sentiment que c'est pas la justice qui va y aider, parce que de fait, les stages de citoyenneté et autres travaux d'intérêt général, ça doit lui passer complètement au-dessus du.
Célia, on parle de combien d'individus? Parce que là, il y a lui qui est jugé, mais enfin, il y a tellement de familles qui sont touchées, on imagine qu'il y a quand même un petit noyau dur qui font, qui tiennent effectivement le quartier comme dans le Far West, quoi.
On le surnomme le caïd de Villers-Cotterêts, mais il agit pas seul, il agit avec 5 autres personnes qui se sont attaquées à un homme, voilà, cet été, dans sa voiture. Donc c'est vraiment des phénomènes de bande. Là, dans cet immeuble-là, cette bande avait squatté la cage d'escalier. Ils utilisaient l'électricité pour recharger leur téléphone portable. Un soir, le mari qui a été agressé les a vus se couper les cheveux et la barbe. C'est vraiment devenu leur QG pour le trafic de drogue. Et quiconque s'oppose à leur business reçoit des intimidations sur les réseaux sociaux et se fait agresser.
Ouais, il vaut mieux raser les murs. En effet, c'est un peu le message qu'ils veulent envoyer à ceux qui vivent là.
C'est comme une mère de famille nombreuse qui a été agressée.
Ils ont quitté Paris justement pour la violence, ils m'ont expliqué. On a quitté les grandes villes. On s'est dit la campagne, ça va être plus tranquille. Et finalement, non. Ils sont rattrapés par la violence. Ils ont déménagé près d'un commissariat pour se sentir un peu plus en sécurité. Mais c'est toujours compliqué pour eux.
Ouais. Jean-Claude, allez, un dernier mot là-dessus.
Bon, un dernier mot. Qu'est-ce que vous voulez? Le caïd en question a été condamné à quoi? À reprendre
son... Pour l'instant, c'est réquisition.
Bon, oui, les réquisitions, ouais. Mais bon, on verra le jugement. N'anticipons pas. Néanmoins, il est probable que nous reverrons ce caïd et ses amis dans les cages d'escalier, celle-ci ou une autre, dans les heures ou dans les jours qui viennent. C'est une histoire qui est terrible, comme tu le disais. C'est un symbole, c'est plus qu'un symbole. Des histoires, à mon avis, comme celle-ci, il y en a dans trop de villes et villages en France. C'est même l'explosion du trafic de drogue. Alors certains pensent que c'est le produit, c'est le résultat d'un mouvement social qui fait qu'au fond, ces garçons ne sont pas responsables. Ils sont obligés de trafiquer de la drogue pour gagner 3 ronds. En fait, ils en gagnent beaucoup plus que ça. Ils ne connaîtront pas la sanction. Tant qu'on n'aura pas décidé de faire et de pratiquer des sanctions exemplaires avec les trafiquants de drogue, on n'y arrivera pas, il n'y a pas de raison que ça change.
Merci beaucoup.
Pardon.
Et merci.
J'ai encore été un peu long, peut-être.
Non, c'est pas grave. Quand je vous dis 3 fois merci, vous comprenez. Jocelyn Dessigny, merci à vous également de nous avoir rejoints en direct sur notre antenne et beaucoup de courage aux administrés de Villers-Cotterêts, bien évidemment. Vous restez avec nous, Célia. On évoquera le cas de Neko, ce chat qui est mort dans des circonstances quand même dramatiques, il faut bien le dire. Gare Montparnasse, ça a pris de telles proportions. On en est carrément au procès. En tout cas, il a beaucoup de soutien. Enfin, sa maîtresse et sa famille d'adoption ont beaucoup de soutien avec les associations de lutte pour la défense des animaux. A tout de suite. Merci d'être resté en notre compagnie et merci à vous, Célia Barotte. On ne regrette pas de vous avoir demandé de rester parce qu'entre-temps, on parlait de cette histoire de Villers-Cotterêts et surtout de ce jeune homme jugé à Soissons. Eh bien, la condamnation est tombée dans l'intervalle. Hein.
Donc, je vous rappelle, le procureur de la République avait requis à son encontre 1 an de prison, dont 8 mois avec sursis, donc 4 mois ferme aménageable. La condamnation est tombée. Il s'agit désormais de 14 mois d'emprisonnement, dont 8 avec sursis. Les 6 mois d'emprisonnement seront fermes. Il
seront aménagés avec un bracelet électronique. L'homme de 19 ans a également l'obligation de travailler et d'indemniser les victimes, mais également de faire 175 heures de travail d'intérêt général.
Ce qui veut dire qu'on est donc allé au-delà,
des réquisitions.
On verra si ça
lui sert. Un poil plus sévère. Néanmoins.
Ça ne satisfait toujours pas la famille.
La famille est très en colère.
Il ne va pas en prison, il n'est pas sanctionné pour lui apprendre à se comporter comme un bon citoyen. Espérons quand même qu'il va réfléchir et arrêter son business et son trafic. Franchement, ça m'étonnerait.
Je ne sais pas, il avait un certain nombre de condamnations à son actif.
Le bracelet, c'est quand même quelque chose qui est handicapant. Ça vous rappelle en permanence que...
Je vous rappelle que l'un des assassins du père Hamel avait un bracelet électronique. Ouais. Donc ça n'empêche pas tout, si je peux me permettre.
Bien sûr que non,
il était déjà sous contrôle judiciaire.
Tu as raison.
Merci beaucoup en tout cas d'être resté. Et merci à vous pour toutes ces précisions. On en vient à un autre procès, celui de la SNCF dans l'affaire Neco, qui a débuté cet après-midi. C'était en janvier dernier, en gare de Paris-Montparnasse. Ce petit chat devait prendre le train avec sa maîtresse. Il s'était réfugié sous un train, mais entre-temps, eh bien, au lieu d'aller chercher ou tenter de secourir ce chat sur la voie, la SNCF a refusé de retarder son départ pour le récupérer. Et le petit chat est mort, écrasé par un TGV. Le rappel des faits, Émilie Gougache.
Après avoir échappé à ses maîtresses, Neco est mort en gare Montparnasse. Ce 2 janvier 2023, alors que le chat se trouvait sur les rails, les agents de la SNCF ont autorisé le train à quitter le quai. L'alerte avait pourtant été lancée par ses propriétaires.
La SNCF a des process qui leur permet de faire venir des équipes spécialisées pour dégager les voies. Et quand bien même ces équipes ne seraient pas disponibles, ils appellent les pompiers qui sont tout à fait habilités à le faire.
Pour la SNCF, malgré les recherches menées par ses équipes, le chat n'était plus visible sur les rails lors du démarrage du train. Un avis contesté par les parties civiles.
Mais l'infraction retenue par le ministère public, c'est le fait involontairement d'avoir causé la mort. Et c'est ce que nous contestons, puisque pour nous, c'est-à-dire pour la Fondation Champion d'Amis et la propriétaire du chat de Neco, c'est un acte volontaire.
La propriétaire du chat a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas d'indemnisation, mais plus de reconnaissance et des excuses publiques de la part de la société ferroviaire.
Bonjour Amaury Bucaud, vous êtes précisément au tribunal judiciaire cet après-midi. Où en est-on de cette affaire? Dans quel sens cela va-t-il évoluer?
Écoutez Nelly, ce qui est sûr, c'est que déjà, c'est bien le tribunal de police qui a jugé cette affaire. La question, c'était, disons, la première partie de cette audience, c'était de savoir si le tribunal de police était oui ou non compétent pour juger cette affaire. En fait, la question, c'est de savoir si la SNCF devait être poursuivie pour la mort involontaire de ce chat ou pour la mort volontaire. Alors forcément, les parties civiles et les propriétaires du chat, les parties civiles, ce sont ces nombreuses associations de défense des animaux qui se sont constituées les parties civiles et qui sont là aujourd'hui au procès, elle voulait eh bien, que cette affaire aille en correctionnel, c'est-à-dire que la SNCF soit poursuivie pour un délit, puisque pour elle, eh bien, la SNCF a volontairement tué ce chat, mais ce n'est finalement pas l'avis du juge du tribunal de police qui a estimé que c'était bien donc, une action involontaire qui avait été réalisée par la SNCF, qui ne voulait pas tuer ce chat, mais simplement faire partir le train, et donc que c'était bien le tribunal de police qui pouvait juger cette affaire pour cette mort involontaire, et donc la SNCF ne risque, puisque c'est le tribunal de police, j'allais dire seulement 450 euros d'amende, puisque ce n'est qu'une contravention. Alors là, eh bien, écoutez, la deuxième partie du procès a été l'audition à la fois du chef d'escale, mais aussi du contrôleur du train. On les a entendus, ils ont expliqué eh bien, qu'ils avaient écouté finalement les demandes de propriétaires des chats qui étaient en détresse. Alors les propriétaires du chat n'étaient pas là aujourd'hui parce que, à cause de problèmes de santé, mais ils ont expliqué voilà, qu'ils avaient voulu leur venir en aide, mais que le chat n'était pas visible, si vous voulez, jusqu'au départ du train, et donc qu'ils n'avaient pas pu l'extraire sous les voies ni descendre sur les voies, et donc que le train était effectivement parti et finalement que le chat après coup avait été retrouvé coupé en deux sur les rails.
Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. J'imagine que ça a beaucoup fait réagir. On entendait aussi Clément Beaune ce matin qui disait oui, c'est quelque chose de choquant. Tout le monde est quand même assez ému par cette histoire. Mais effectivement, donc voilà, le chat n'était pas visible et ils ont retenu la qualification involontaire. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné cet après-midi. Dans un instant, on revient pour passer le flambeau à Laurence Ferrari. À tout de suite.